Le théâtre des cuisines présente.
Maman travaille pas.
A trop d'ouvrages.
On demande femme à la maison.
La candidate doit être
intelligente,
énergique,
infatigable, sociable,
de bonne humeur.
Qualification.
Pouvoir pratiquer les métiers de
femme de ménage,
comptable,
cuisinière,
blanchisseuse,
repasseuse,
couturière,
garde-malade,
artisane,
garde-bébé,
professeur,
psychologue.
Nous sortirons de nos cuisines. Un documentaire de Jenny Cartwright en 4 actes. Épisode 2. Maman travaille pas, a trop d'ouvrages.
Mais c'était important pour nous de choisir un thème qui était une problématique qui était présente dans le mouvement des femmes à ce moment-là.
Carole Fréchette.
Le travail ménager, ça nous permettait de remettre en question tout le système capitaliste. C'est-à-dire qu'on avait une analyse marxiste de la société qui faisait une analyse de la classe ouvrière versus la classe dominante. Et pour nous, le travail ménager, ça avait une place dans ce système-là. C'était comme le travail invisible, le travail des femmes. C'était d'entretenir, de reproduire et d'entretenir la force de travail qui allait permettre aux possédants de faire rouler le système capitaliste. Bon. On a surtout cherché une forme ou un récit théâtral qui nous permettrait de faire la démonstration du fait que le travail ménager est un travail non rémunéré, invisible, qui joue un rôle économique fondamental dans la société. Et là, on a eu l'idée de la grève, d'une grève des ménagères qui serait une façon de démontrer par l'absurde, d'une certaine façon, que si toutes les femmes arrêtaient de faire ce travail invisible, la société serait complètement paralysée.
Ma vie, là, c'est toujours la même affaire. J'arrête jamais de travailler. Quand c'est pas à l'école, c'est à la maison. J'ai pas le temps de faire autre chose. Puis Jean, il m'aide pas dans la maison. Puis il est jamais là. Les enfants, ils voient jamais. Ça peut plus continuer de même. Faut que ça change.
Ça a plus d'allure. Le bien-être, il me donne tout juste de quoi pas crever de faim. Puis il ose appeler ça le bien-être. Tout mon temps, je le passe à essayer de joindre les deux bouts pour que les enfants en mangent comme du monde puis qu'ils ressemblent aux autres enfants. Puis moi, là-dedans, j'en peux plus. J'ai jamais de repos, jamais de vacances.
Ça fait 20 ans que je suis enfermée dans ma cuisine. Je tenais d'être leur servante. Puis en plus, ils me disent que je travaille pas. Puis je tenais d'élever les enfants toute seule parce que Georges trouve que c'est pas son affaire. J'ai tellement besoin de parler. Il faut que je sorte de chez nous.
Vivre enfermé à cœur d'année à travailler. C'est ça notre vie de reine au foyer?
Ça ne peut plus rester de même.
C'est à nous autres de s'organiser.
C'est à nous autres de s'organiser.
C'est à nous autres de s'organiser.
Les trois lèvent une grande pancarte sur laquelle est inscrit le mot « grève ».
On fait tout la grève.
Toutes les ménagères ensemble. On a décidé que ça peut plus continuer comme ça.
De toute façon, ils disent que nous autres, on travaille pas.
Tu veux que ça devrait rien changer qu'on fasse la grève?
Tout ensemble. On arrête tout.
Puis pour faire la grève, on peut pas garder nos enfants.
Ça fait qu'on les laisse à nos maris.
On va bien voir ce qui va arriver demain matin quand on sera plus là.
Et là, un peu comme pour la pièce sur l'appartement, on a créé des personnages.
Véronique O'Leary.
Donc, on a créé la monoparentale. Moi, je jouais justement Yvette, la monoparentale, avec deux enfants, lâchée. Trois enfants, mais on en avait juste deux sur scène. On ne pouvait pas jouer tous les enfants. Lâchée par son mari parti sans laisser le sou, qui ne payait pas de pension, qui existe encore, hein, faut pas croire. Faut que la réalité soit plus vraie que la fiction, quand même, un petit peu. Après ça, il y avait la mère à la maison qui avait 5 enfants. C'était Carole qui jouait ça. Il y avait la troisième qui était Nicole, qui est enseignante. Décidément, on les mettait enseignantes, nous, femmes qui allaient sur le marché du travail, et dont le mari est bien occupé par le syndicat. Et elle s'occupe de tout aussi. Et donc, c'est toute l'histoire de ces trois jeunes femmes qui disent « c'est génial, je me marie, je vais être heureuse, c'est au bout, ça va être génial ». Et puis, quelques années après, bon, c'est deux minutes dans le spectacle, quelques années après, ben là, je suis tannée, là, tu sais, c'est pas ça.
Une autre journée à mettre dans le corps. J'ai mon voyage, mais ça fait rien. Faut que je continue le même train-train. Laver, frotter, torcher tout le temps. Quand je suis malade, puis quand je suis bien, y'a pas moyen de faire d'autres choses. J'ai une job steady, j'suis pas une autre, j'suis ménagère.
J'en viens pas comment c'était super notre affaire. J'en viens pas. Tu sais, je me dis, on a fait ça en 74, puisqu'on l'a joué en 75. Encore une fois, on a fait ça assez rapidement. Là, par contre, moi, j'étais au Centre des femmes, puis là, j'ai arrêté le Centre des femmes. Ma priorité, c'était le Théâtre des cuisines. Donc, on faisait aussi des job-in et tout ça, mais j'ai pas arrêté le comité de lutte et tout ça, mais c'était quand même notre priorité de créer ce spectacle-là. Je sais plus trop comment on vivait à l'époque. Pas riche, là.
Extrait du manifeste du Théâtre des cuisines. Nous ne voulons pas être des professionnels du théâtre. C'est-à-dire que nous ne voulons pas vivre uniquement du théâtre. Si nous ne faisons que du théâtre, le danger est grand de recréer une petite élite à notre niveau, coupée de la réalité quotidienne. Notre théâtre risquerait lui aussi de s'éloigner de la réalité que vivent la majorité des femmes, et donc d'être beaucoup moins efficace. Nous essayons de trouver des jobs qui nous laissent assez de temps libre pour répéter et jouer, ce qui est très difficile, il faut l'avouer. D'autre part, nous tentons d'obtenir des subventions qui nous permettent de faire des extras, jouer à l'extérieur de Montréal, peut-être faire une tournée pendant l'été. Pour le financement régulier du groupe, nous avons comme principe de demander de l'argent à ceux qui en ont, afin de jouer gratuitement là où il n'y en a pas.
Et à distance, maintenant, je me dis, on a vraiment visé les deux piliers de l'exploitation des femmes. Le corps, le contrôle de notre corps. C'est pas pour rien que les femmes sont prêtes à mourir pour ne pas avoir d'enfants, tellement ça change nos vies. Et le travail gratuit des femmes, qui sont les piliers de l'exploitation des femmes. À l'époque de Maman travaille pas, on s'est dit, on va faire une enquête pour voir c'est quoi exactement le travail ménager. Donc, il y avait l'enquête qui s'appelle l'enquête socio-économique sur le travail des ménagères, qui a été faite par des féministes, qui était une enquête vraiment assez sociologique. Mais il n'y avait pas grand-chose. Il y avait la commission royale d'enquête, la commission Bird, qui avait quand même sorti l'évaluation économique du travail des femmes.
À la fin des années 60, 32 groupes s'allient et réclament une enquête sur la situation de la femme. La coalition prévient le gouvernement canadien. Si la colline parlementaire fait la sourde oreille, elles seront 2 millions à la faire trembler de leurs pas. La Commission royale d'enquête sur la situation de la femme au Canada, son nom officiel, ou Commission Bird, du nom de sa présidente, est créé en 67. C'est une époque charnière. De plus en plus de femmes divorcent ou font leur entrée sur le marché du travail. Or, une grossesse suffit pour justifier un congédiement et les congés de maternité n'existeront pas avant 1979. Le Parlement canadien compte 355 personnes, dont 348 hommes. Mais le monde change. Et le spectacle politique aussi. Pour la première fois dans l'histoire, une commission d'enquête est télévisée. Cette médiatisation politise le privé et permet une profonde remise en question des rôles d'épouse et de mère. Des centaines et des centaines d'audiences et de témoignages plus tard, les commissaires concluent que partout au Canada, les femmes sont infériorisées. 167 recommandations sont formulées pour corriger le tir.
Femme d'aujourd'hui vous est présentée par Radio-Canada et ses postes affiliés.
En voyageant à travers le Canada, Nous avons entendu parler de cas de discrimination persistante à l'égard des femmes et de préjugés tenaces. Nous avons découvert que la valeur du travail que les femmes font à la maison n'est pas reconnue. Même quand elles travaillent au dehors, elles reçoivent en général des salaires moins élevés que les hommes. Nous avons recommandé l'établissement de garderies que nous considérons d'importance primordiale pour les Canadiennes. Nous avons recommandé un congé de maternité payé, une meilleure diffusion de l'information sur la contraception auprès de toute la population et des modifications au code criminel touchant l'avortement. La Commission a été profondément touchée par le problème de la pauvreté chez les femmes au Canada. Un dernier mot. La Commission est d'avis que le rapport devrait être lu par tous les Canadiens et Canadiennes parce qu'il concerne les droits, les libertés et les besoins de tous et chacun.
Dans la foulée, le Centre de recherche sur la femme, dont font partie d'anciennes membres du Front de libération des femmes, publie l'analyse socio-économique de la ménagère québécoise. C'est la première compilation statistique portant sur les ménagères à temps plein, soit une Québécoise sur deux. Les autrices joignent analyse marxiste et perspective féministe et concluent que, tout comme les prolétaires, les ménagères sont dépossédées des moyens de production et contraintes à vendre leur force de travail. Mais à la différence de leurs confrères, elles sont limitées à un seul patron, celui qu'elles ont marié.
Donc, il y avait ça quand même comme donnée, et on s'est dit, ben nous, on avait nos mères quand même, qu'on voyait bien, qu'elles travaillaient tout le temps.
6h30, je réveille mon mari, je me lève, je fais le déjeuner.
7h, je réveille les enfants, je fais le lunch de mon mari, les enfants puis mon mari déjeunent.
7h30, mon mari part travailler, j'aide les enfants à s'habiller.
8h, les enfants partent pour l'école.
8h30, je m'assois pour déjeuner. J'organise ma journée pour savoir par quel bout commencer. J'enlève la table.
9h, je ramasse le linge puis je commence un lavage. Je vais porter les vidanges dehors.
9h30, les enfants se battent. Je les sépare.
10h, le petit veut manger. Il renverse son verre de lait. J'essuie le plancher. Je ramasse la vaisselle du déjeuner, puis j'allume la radio.
10h30, je balaie la cuisine. Je passe la mop partout. Je vais sécuer la mop.
11h, les enfants se disputent encore. Je sépare les jouets pour travailler tranquille.
11h30, il fait beau. Je vais étendre le linge dehors. Je lave le bain, le lavabo, les toilettes, le miroir puis le plancher de la salle de bain.
Midi, je prépare le dîner. Le téléphone sonne.
1h, le dîner est fini. Je fais la vaisselle, je balaye le plancher.
2h, je couche le petit, je ferme la radio, je fais les comptes puis la liste d'épicerie.
3h, le petit se réveille d'un mauvais cauchemar, je le rassure.
3h30, le petit se lève, je l'habille, le téléphone sonne.
4h, je vais faire les commissions avec les enfants, je me dépêche.
5h, je reprise du linge. Les enfants écoutent la TV trop fort.
5h30, je prépare le souper. Mon mari arrive.
6h, je sers le souper.
7h, je fais la vaisselle.
7h30, je couche le petit.
8h30, je parle avec mon mari.
9h, je donne une bière.
9h30, je couche les autres.
10h, je regarde la TV.
Si vous voulez gâter votre mari, essayez le beurre lactation à l'ail.
10h30, j'ai dit d'aller chercher sa bière.
11h, je prends un café.
Minuit, on se couche.
Minuit et quart, il dort.
Donc, en termes de mise en scène, ben chacune regardait le travail des autres, on se faisait des commentaires, il n'y avait pas vraiment la metteur en scène, il n'y avait pas vraiment... Pour les décors, on décidait ensemble, il y en avait qui avaient plus de talent, de couturière ou de visualisation qui allait plus en faire. Mais c'était très, très collectif, vraiment très collectif. Ça, je suis fière de ça. Parce qu'on ne s'entendait pas idéologiquement, ça a failli péter, hein.
Et là, il faut imaginer qu'il y a d'autres groupes féministes autour de nous, le comité de lutte pour l'avortement, les éditions du remue-ménage qui naissaient, le centre de santé, des femmes du quartier.
Solange Collin.
Et toujours notre désir de mouvement, de libération des femmes. Donc, on faisait des réunions, on appelait ça l'intergroupe. Et là, on rencontrait certaines féministes plus articulée peut-être avec des attentes politiques plus précises. Et ça, ça nous nourrissait aussi, mais ça nous dépassait. Parfois, je dirais ça comme ça. Comme, je pense entre autres à toute la discussion sur le salaire pour le travail ménager. Bon, moi, je suis une fanatique de la cohérence. Il faut être cohérent. On n'a pas passé une heure à prouver que c'était un travail sans parler de salaire. C'est impossible qu'on n'en parle pas. C'est clair que ce n'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas qu'il y ait un salaire pour que les femmes restent à la maison. Mais c'est impossible d'occulter ça. On vous prouve que c'est un travail, mais on ne parlera jamais de ça. Jamais, jamais on va parler de salaire. Donc, ben, on en a parlé. Et ça, ça a amené des discussions féministes paralysantes où, à deux jours de présenter le spectacle pour le 8 mars, avec, on le savait qu'il allait avoir 600-700 personnes dans la salle, et ben, il y en a une de l'équipe qui ne voulait plus la jouer. Du tout.
Toujours est-il que moi, je me fais happer, j'ai bien voulu, par des filles qui me disent « c'est effrayant, vous ne pouvez pas mettre ça dans votre pièce ». Et là, il y en a qui ont dit « vous ne pouvez pas demander ce salaire ». Il y en avait une qui pleurait, c'est horrible, c'est une trahison, s'ils remettent les femmes. Là, puis moi, j'étais comme « dans le fond, c'est vrai ». Donc, j'étais celle du groupe, entre autres, qui faisait « oh, c'est vrai, c'est terrible ». Là, ça a été le bordel. T'sais, ça a été idéologiquement déchirant. Fait que là, on a failli péter aux frettes, là. Mais c'était dur, les luttes idéologiques, parce qu'on mettait tout dans nos idées. C'était notre peau. On avait tellement besoin de se défendre et de dire qu'on a raison. T'sais, c'était comme... On était tellement méprisés et rejetés. Donc, il fallait absolument qu'on ait raison.
Le mouvement pour un salaire ménager naît en 1972. Il atteint son apogée 5 ans plus tard, alors qu'on le retrouve en Amérique du Nord, ainsi que dans plusieurs pays d'Europe. Plusieurs le qualifient d'embryon d'une internationale des femmes. Il réunit des femmes blanches, hétérosexuelles, lesbiennes, racisées, des assistées sociales, des travailleuses du sexe, des ouvrières. Pour ces militantes, lutter pour un salaire n'est pas une fin en soi, mais plutôt une façon d'ouvrir des débats sur l'ampleur du travail reproductif gratuit. C'est une forme de résistance au système capitaliste. L'idée est mal reçue et la majorité y voit un renoncement au désir de socialiser le travail domestique et un recul de la demande d'égalité qui risque de garder au foyer celles qui y sont enfermées. Cette question deviendra un important point de friction chez les féministes.
Et là on a... Je ne me souviens pas si c'est à ce moment-là que finalement, on a réécrit une deuxième version d'un bout là, de nos revendications, où on est allé davantage vers la socialisation des travaux ménagers, avec un petit mot pour le salaire, quand même. Est-ce que c'est déjà là où on l'a fait après? Je ne me souviens plus des détails, mais ça a été ça, des discussions très ardues, très difficiles. Et on était donc là, celles qui portaient le mouvement de libération des femmes. Ça, c'était très lourd. Et si on a changé d'idée pour le salaire au travail ménager, c'est parce qu'on l'a joué, et on l'a joué un peu partout, et on faisait des discussions encore là après.
Donc, on n'a plus nommé comme tel le salaire au travail ménager, mais on a continué de nommer qu'on voulait la reconnaissance de ce travail-là, que ce travail-là soit socialisé. On a tout nommé ce qui était avant, sauf qu'au lieu de dire on veut un salaire, on disait qu'on veut qu'il soit reconnu et qu'il soit socialisé, ce qui n'est pas encore fait 50 ans plus tard. Mais dans la publication, on a mis les deux versions en disant « c'est pas réglé, c'est pas réglant les féministes ». Et moi, je suis fichument fière qu'on ait parlé de la division, qu'on ait parlé du conflit et qu'on ait nommé, ben, en tout cas, on est arrivé à ça, parce que c'est pas réglé. Il n'y a personne dans la gauche à l'époque qui parlait des divisions, mais mortifères, mortifère. Et je trouve que vraiment, les féministes, on s'en est reparlé en 82, quand on a fait l'anthologie des Québécoises debout, qu'on s'est retrouvées les femmes du FLF et les femmes du sang des femmes. En 82, on riait et rigolait de comment on pouvait être sectaire, avec affection. Qui c'est dans la gauche en 82 qui rigolait d'être sectaire? Tu sais, on le voyait, on se l'expliquait, on disait, mais c'est parce qu'on était tellement attaqués de toutes parts, tu sais, fallait qu'on ait raison quelque part, tu sais, on comprenait, puis on disait, on faisait comme le patriarcat, comme les gars, on copiait les gars en termes de rapport de pouvoir, parce qu'on était contre, mais c'est ça qu'on connaissait. On disait ça en 82, tu sais, moi, je trouve vraiment que les féministes sont extraordinaires, tu sais, d'oser. Parce que dans le fond, on parle aussi de nous.
On entend un enfant qui pleure en voix off. Le mari entre avec un bébé dans les bras.
Lucie? Lucie! Pourquoi qu'il braille, le petit?
Ben, il doit avoir faim.
Qu'est-ce qu'il mange le matin?
Du pablum.
Où c'est qui est, le pablum?
Mais il en dépense, cette affaire!
Oh! Pour son premier repas, mélanger une cuillerée de céréales à deux cuillerées d'eau. Ajouter graduellement d'autres céréales pour une consistance plus épaisse. Bon.
Papa, t'as un trou dans mes pantalons.
Mais un autre paire.
J'en ai pas d'autres.
Comment ça? T'as rien qu'une paire de pantalons.
Ben oui. Je peux pas aller à l'école avec un trou dans mes pantalons. Tout le monde veut rire de moi. Arrange-les, OK?
J'ai pas le temps, là.
Ben, ma main est capable.
Papa, ça sent le brûlé.
Oh.
Papa, arrange mes cheveux.
T'es correct comme ça, ma popoune, hein? Va déjeuner.
Oh. Papa, veux-tu m'aider, là? Je comprends pas mon problème. Jean prend 3 minutes pour grimper dans un arbre. Marie, elle habille ses poupées en 8 minutes. S'il joue pendant 3 quarts d'heure, combien de fois chacun fera-t-il ce qu'il a à faire? Papa, tu m'écoutes pas!
Au 30e du remue-ménage, vu que leur premier livre, c'était « Maman travaille pas », on a lu cette scène-là. Où le père, il est tout perdu. Il sait pas où est le pablum. Il sait rien. Il sait rien. Il faisait rien. Il faisait rien. Donc, c'était très drôle, mais c'était très efficace pour montrer, de un, comment le père, franchement, il sait rien faire. La majorité, à l'époque, hein, maintenant ça a un peu changé, là, mais à l'époque, vraiment, il y avait des pères qui ne savaient pas où était le pablum, puis des gars qui ne savaient pas comment marchait la machine à laver. Ben, c'est compliqué, il faut dire. C'est compliqué pour eux.
Papa, Richard a renversé son verre de lait.
Ramasse-les, Richard.
Je suis pas capable.
Lucie, ramasse le verre de lait de ton petit frère, là.
Ah, papa, j'ai pas de temps à mon problème.
Ah, oh, ça se peut pas, vous soyez toujours de même. Je suis sûre que vous faites exprès parce que votre mère est pas là.
Papa, qu'est-ce qu'on mange à midi?
À midi, on mange au restaurant.
Je crois que j'aime tous les passages de « Maman travaille pas à trop d'ouvrages ». Je viens de relire cette pièce-là et je la rejouerai intégralement. Je l'assume totalement, cette pièce-là. Bon, là, on a élaboré davantage les décors. Davantage. Bon, c'est pas extra. On n'avait pas d'argent, de toute façon, on n'avait pas de subvention. Mais ce qu'on avait était super efficace parce qu'on jouait plusieurs rôles et on faisait les changements à vue, sans perdre le rythme. Donc, on passait de tel personnage à un rôle d'enfant. Chaque famille avait ses couleurs pour que ce soit facile. Moi, je suis sûre que le public suivait ça sans aucun problème. Ah, j'aime les 3 femmes qu'on présente. La scène du mari qui se retrouve avec les enfants, qui est complètement perdu, c'est délicieux. C'est moi qui jouais le mari, alors c'était délicieux à jouer. Quand les femmes sont en procès, leur façon de prouver, de se défendre, la chanson « Debout les femmes », je la rechanterai aujourd'hui. Ouais.
Oui, nous savons que le profit des patrons, nous le ensemble, enfin soyons
Pensez-vous que c'est une heure pour arriver? C'est pas un avertissement que je vous donne, mais trois. Au prochain, je vous mets dehors. Compris?
Mais boss, c'est pas de ma faute. Ma femme fait la grève. J'étais pognée avec les petits à la maison, puis là...
Votre femme est en grève. Mais où est-ce qu'elle travaille, votre femme?
Ben, elle travaille pas.
Elle ne travaille pas? Mais comment on peut être en grève si on ne travaille pas?
Mais vous comprenez pas. Elle fait la grève de la maison. Moi, j'étais pognée avec les petits, puis là, pas moyen de trouver une gardienne. Ils sont tous en grève. Et j'ai décidé de les emmener avec moi, mais là, je peux pas m'en occuper puis travailler en même temps. Fait que, ben, je vous les laisse. Je les reprendrai à l'heure du dîner.
Hey, ça... Excusez-moi, boss, là, si je suis en retard. Hein? Les autres aussi. Hey, c'est pas drôle, hein? En tout cas, je vous le laisse, là, puis, ben, s'ils pleurent, bercez-les. Il aime bien ça.
Excusez, boss. Ah, les autres aussi? Ben, je vous les laisse. J'ai préparé leur boire de 10 heures. Oubliez pas de leur donner.
Excusez.
Hein?
Les autres aussi? Bon, j'y vais tout de suite, puis je vous laisse les instructions pour la journée.
Ça suffit! Ça suffit! Vous ne pensez tout de même pas que je vais m'occuper de vos enfants?
Si vous voulez pas vous en occuper, rappelez donc les 50 gars que vous avez mis à la porte le mois passé. Hein?
Ouais, c'est vrai, ça. Ouais. Pauvres gens.
Il n'en est pas question. C'est à vos femmes de faire ça. Allez, travaillez! Allez!
Il faut que je trouve une solution au plus vite. Je vais quand même pas payer des employés pour garder les enfants. Je vais aller voir le premier ministre pour qu'il fasse rentrer les femmes à la maison. De gré ou de force.
Ouais. On est mieux de régler ça au plus vite. Sinon, l'idée va se propager. Dis-moi quoi faire.
J'espère que tu réalises que payer les ménagères, ça peut jeter l'économie et les systèmes par terre. Moi, j'ai pas intérêt à ce que ça change. Toi non plus, d'ailleurs, avec les salaires que tu fais.
Oui. Oui, je sais.
Il faut que la famille reste comme elle est. Un qui produit et une qui entretient la production en silence. Une grande part de mes profits vient du fait que les femmes travaillent gratuitement.
Et la scène du procès, c'est vraiment l'explication du travail invisible et de l'exploitation que ça représente du travail des femmes et du profit que font les patrons. C'est clair, c'est un profit pour les capitalistes. Et la scène est tellement lumineuse. Écoute, les femmes riaient de bonheur. Donc, elles sont arrêtées, oui, parce qu'elles font la grève, puis là, le patron dit, il n'y en a pas question, il faut absolument qu'elles arrêtent ça, parce que le système est foutu, tu me les mets toutes en prison si elles ne rentrent pas à la maison. Elles refusent de rentrer à la maison, elles sont toutes arrêtées. Elles sont trois, là, mais on imagine que toutes les femmes sont arrêtées. Et dans le procès, les femmes, il se fait demander par le juge, ben, qu'est-ce que vous voulez, parce que le juge est là, mesdames, vous avez abandonné vos enfants. Ben, ils n'ont pas abandonné, on les a laissés à nos maris. Et là, elles disent... Qu'est-ce que vous voulez? Ben, elle dit, écoutez, on aurait besoin de quelqu'un, là, de monsieur là, qui est là, un témoin. Là. On aurait besoin qu'il nous aide parce qu'on va lui poser des questions puis vous allez comprendre ce qu'on veut.
Monsieur, avez-vous des enfants?
Oui, j'en ai trois.
Votre femme n'est pas là présentement? Ben, supposons qu'elle ne revient plus. C'est qui garderait vos enfants?
Ben, moi.
Vous ne pouvez pas, faut que vous allez travailler.
Ouais, bon. Je demanderai une gardienne pour la journée.
Cette gardienne-là, il faudrait la payer.
Ben oui, je la paierai.
À part ça, quand vous rentrez chez vous le soir, votre souper est prêt d'habitude. Là, il sera plus prêt.
Ben, je le ferai.
Pour les enfants aussi?
Ouais, ouais, pour les enfants aussi.
Puis le lavage, le ménage, ça sera pas fait non plus, là?
Ben, je le ferai.
Il y a le repassage à faire aussi, puis l'épicerie.
Ouais, ouais, OK. Disons que je prendrais une femme de ménage de temps en temps.
Oui, mais le soir, là, si vous voulez sortir.
Ouais, ouais, mais ça se peut pas, là, cette affaire-là. Moi, ma femme, elle va revenir.
Ça, c'est une supposition, là. Vous allez voir où est-ce qu'on veut en venir. Puis le soir, si vous vouliez sortir...
Vous aurez pas grand temps à vous, hein?
Ben, je prendrais une gardienne pour quelques soirs.
Comme ça, vous engageriez une gardienne 5 jours par semaine, une femme de ménage de temps en temps, puis une gardienne quelques soirs? Savez-vous que ça peut coûter dans 80$ par semaine, ça? Comment vous gagnez, donc?
150.
Il vous resterait pas grand-chose sur votre paye?
Non, je pense que là, j'arriverai en dessous.
Faudrait que vous demandiez une augmentation.
Ouais, toute une.
Puis votre boss, il vous la donnerait-tu, l'augmentation?
Ben non, vous savez bien. Il veut même pas entendre parler d'indexer les salaires au coût de la vie.
D'habitude, votre femme est là, puis elle fait tout ça gratuitement. Comme ça, vous avez pas besoin de demander votre grosse augmentation à votre boss. Ça fait que qui c'est qui sauve de l'argent là-dedans, pendant que nous autres, on travaille gratuitement?
Ben, c'est clair. C'est les boss.
Merci, monsieur. Vraiment, là, ça suffit. Vous pouvez vous asseoir.
Le public non professionnel, ça, c'est une joke que j'aime bien. Enfin, c'est moi qui ai créé ce mot-là pour raconter l'histoire du théâtre des cuisines. Ben, le public professionnel, c'est ceux qui vont souvent au théâtre, donc qui ont un œil, ils lisent les critiques, ils ont fait le cours classique de ma génération, les autres vont... Il y a comme une éducation, mais j'ai rien contre, là. C'est super, c'est une richesse de l'humanité, ces pièces-là. Mais à leur époque, elles ont été Molière, il a été dangereux, il a été interdit. Beaumarchais, il était dangereux, puis il y a eu de la misère, tu sais. Puis Mozart s'est fait chicaner de prendre des pièces de Beaumarchais parce que c'était vraiment révolutionnaire. Donc, ces pièces-là étaient dangereuses pour le système. Maintenant, là, jouer Place des Arts à 45$, je pense que c'est pas très dangereux.
Extrait du manifeste du Théâtre des cuisines. On n'attend pas le public. On va là où il est. La majorité des femmes sont ménagères, qu'elles travaillent à l'extérieur ou non. Elles ont généralement ni l'argent, ni surtout le temps d'aller au théâtre. Les théâtres sont généralement des lieux réservés à l'élite de la société. Élite qui va au théâtre pour se distraire. Certaines pièces de théâtre, pourtant, ont un contenu révolutionnaire. Mais le fait de les présenter dans les théâtres leur fait perdre tout leur sens combatif et elles n'ont l'air alors que d'un nouveau genre de théâtre sans aucun lien avec les luttes que mènent les femmes et les hommes dans leur milieu. C'est à nous d'aller rencontrer les femmes là où elles sont, dans leur quartier, dans certaines assemblées syndicales, dans un lieu de travail en grève, dans les cafétérias de cégep et d'université. Quant au lieu de théâtre proprement dit, toute place, salle paroissiale, salle d'école, local de groupe populaire, est assez bonne pour y jouer du moment qu'on peut s'y faire entendre.
Ça a été incroyable. La première fois qu'on a joué Maman travaille pas dans des quartiers, donc c'était à Pointe-Saint-Charles. Et donc c'était des ménagères, des femmes qui venaient aux activités pour les femmes, puis les rencontres, les cafés-rencontres, etc. Donc elles s'installent, on s'installe, on commence la pièce. Elles parlent pendant la pièce. Elles se parlent. Et nous, on se dit, oh, on doit être vraiment plate ou qu'est-ce qui se passe? Ça les intéresse pas. Puis tout le temps, ils sont en train de se parler tout le temps. Puis à un moment donné, on continue de jouer quand même, tu sais, puis ils rient quand ils trouvent ça drôle, tout. Mais on est comme, oh mon Dieu, tu sais, parce qu'on a été dressés, nous autres, comme public professionnel, les filles qui sont allées à l'école de théâtre, au théâtre, tu te tais. Toujours est-il qu'on finit, on salue, elles se précipitent vers nous en pleurant, elles nous prennent dans leurs bras. Comment c'était beau, comment c'était extraordinaire. Puis là, il y en a qui disent, oh, si on savait que c'était ça le théâtre, on serait allé. Et là, on leur a dit, ben, c'est pas ça que vous auriez vu. Puis c'est pas comme ça que vous l'auriez vu. Mais c'était ça qu'on voulait. On voulait rejoindre les gens qui n'ont pas accès au théâtre, qui n'ont pas accès à cette parole-là, qui parle d'elle en plus. Et puis ça, à chaque fois, là, partout où on l'a joué, la démonstration que c'est du travail, le travail ménager quand elles sont en grève. Les femmes sont, mais ils sont aux anges, là, ça se peut pas. C'est la première fois qu'on leur dit ce que vous faites, ça vaut vraiment quelque chose, puis si vous le faites pas, le monde marche pas. Maman travaille pas particulièrement, mais même sur l'avortement aussi, parce que les femmes, tout d'un coup, se déculpabilisaient, voyaient qu'on était solidaires. C'est-à-dire que ça avait un impact immédiat. Immédiat entre la salle et nous.
Nous, on se transformait rapidement. Nous, on faisait des grands pas. On a fait des grands pas. les femmes de cette génération-là, on a fait des grands pas. Puis les hommes avaient beaucoup de privilèges à perdre. Alors, c'est sûr qu'ils n'allaient pas faire des grands pas de façon équivalente. C'est impossible, impossible. Ils essayaient, ils trouvaient ça exigeant et ça devenait infernal. Donc, effectivement, hein, il n'y a pas beaucoup de couples qui ont tenu la route dans ces conditions-là, je dirais. Bon, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'un couple ne tient pas la route, ceci dit, mais à notre époque, à nous, je pense qu'avec nos revendications, c'était difficile. C'était difficile pour nous, hein, les femmes, et puis c'était difficile pour d'autres raisons pour nos amoureux de l'époque.
As-tu oublié que c'est à ton tour de faire le souper?
Oh, Nicole, je suis bien fatiguée. Tu voudrais pas le faire? Je vais le faire demain.
Hey, moi aussi, je suis fatiguée quand j'arrive de travailler, tu sais. Hey, écoute, Jean, là, on n'est pas pour recommencer la même discussion qu'on a eue la dernière fois. La semaine passée, là, tu t'en es bien sortie, finalement. Hein, le premier soir, tu as travaillé dans ton auto, tu disais que c'était important. Puis le mercredi, tu m'as tellement achalé pour que je t'aide à faire le souper que j'ai fini par le faire presque au complet. Puis vendredi, tu nous as invités au restaurant. Tu peux pas recommencer la même affaire cette semaine, hein?
OK. Je vais le faire.
J'ai fait dégeler du steak haché un matin. Tu peux faire ce que tu veux.
OK. Je vais faire un pâté chinois. C'est correct, ça?
Bonne idée. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. Hey, tu sais-tu qui c'est qui m'a appelé aujourd'hui à l'école?
Non. Qui?
Louise.
Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de ses nouvelles. Qu'est-ce qu'elle raconte?
Elle m'appelait pour m'inviter à une de leurs réunions.
Une réunion de quoi?
Une réunion sur les garderies populaires.
Puis, vas-tu y aller?
Ouais, ça m'intéresse bien gros. Je t'en ai que Marie à l'aide d'une garderie privée. J'aimerais ça qu'on en mette une sur pied, une garderie populaire. Ici, dans le quartier.
Et c'est vrai que cette garderie-là nous coûte pas mal cher.
C'est pas juste une affaire d'argent. Dans une garderie populaire, là, les enfants sont bien mieux traités. Puis nous autres, les parents, on peut discuter du fonctionnement de la garderie. Puis à part de ça, là, dans ces garderies-là, ils essayent pas de faire la différence entre les petits gars et les petites filles. Des fois, les petits gars, ils apprennent même à laver la vaisselle.
Ouais. Ils apprennent-tu à faire des bons pâtés chinois comme les miens?
Ça serait une bonne suggestion à leur faire.
Bon, à combien qu'on met le four?
350.
Comme ça, si j'ai bien compris... Si tu vas à ta réunion, tu veux que je garde.
Oui, c'est ça.
Tu vas pas me faire ça tous les soirs de la semaine?
Non. Moi, je ferais pas ce que tu faisais. Je veux pas renverser les rôles. Je veux partager les tâches.
Maman travaille pas, là. Ça a été extraordinaire, les discussions après. Dès que la pièce finissait, mais c'était systématique, c'était toujours un homme qui levait la main. Mais toujours. Pour dire, c'est plus comme ça maintenant. Ils ne savaient pas, eux autres, que nous, à Amkou, il y avait eu ça, puis à Matane, il y avait eu ça, puis qu'à Sept-Îles, il y avait toujours un gars qui levait la main pour dire, ce n'est plus comme ça. Il y avait 5 gars dans la salle et 75 femmes. C'est un homme qui allait parler le premier. C'était ça. Donc, tu comprends que notre objectif, c'était parler les femmes.
Le Centre des femmes fait l'objet d'une deuxième perquisition en décembre 1974. 4 militantes et 2 femmes désirant un avortement sont arrêtées et interrogées. Elles sont détenues 6 heures sans possibilité de parler à un avocat. La consolation d'avoir cette fois gardé un double des listes est mince et la fatigue se fait sentir. Après 9 publications de Québécoises debout en 17 mois, leurs activités autour de l'avortement, les arrestations et les manifestations, il devient évident que la tâche est titanesque. Le centre ferme ses portes en mars 1975. Des consoeurs récupèrent leurs livres, leurs périodiques et leurs dossiers et mettent sur pied le Centre de documentation féministe en juin de la même année. Immédiatement et sans surprise, une perquisition survient dans le local qu'elle partage avec le comité de lutte pour l'avortement libre et gratuit. Leur carnet d'adresses, la correspondance, les vidéos éducatives, les pétitions signées et la comptabilité sont confisquées. 7 d'entre elles sont arrêtées et détenues illégalement pendant des heures. La police est toujours du côté du patriarcat. C'est aussi l'année de la femme, ironiquement enfermée dans son singulier. 5 ans se sont écoulés depuis le rapport de la commission Byrd. Le Conseil du statut de la femme a 2 ans. Les luttes s'enlisent dans un féminisme institutionnel et cosmétique pendant que les travailleuses gagnent la moitié du salaire des travailleurs. Plusieurs organisations dénoncent publiquement l'année de la femme, qu'elles considèrent comme une façon de détourner leurs revendications féministes de leur véritable objectif. Dans la foulée de cette célébration maladroite, le gouvernement est pressé de concéder un certain nombre de réformes. Ça n'empêche pas René Lévesque d'utiliser son veto personnel lors du congrès du Parti québécois de 1976. Alors que les membres votent en faveur de l'avortement libre et gratuit, le premier ministre déclare à quel point il est mal à l'aise avec cette question, position qu'il réitère l'année suivante. L'accès à l'avortement stagne. En 1977, le Québec est l'une des régions du Canada où il est le plus difficile d'accès. 89 % des avortements sont pratiqués dans des hôpitaux anglophones.
En 75, ça fait longtemps. En 75, donc on a eu une subvention pour l'année de la femme. Donc on s'est dit, on va faire une tournée où on va jouer les 2 pièces. On avait été invité par le président d'Opération Dignité, qui était le mouvement contre la fermeture des paroisses, organisé par les fonctionnaires de Québec, qui voulaient fermer 90 villages de la Gaspésie-Bas-Saint-Laurent. Je ne sais pas comment ils avaient entendu parler de nous. Et ils nous invitent même pour jouer « Nous aurons les enfants que nous voulons » dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. En 75, je ne sais pas si tu vois, là, nous-mêmes, on n'en revenait pas. Et puis après, on était à Matane. À Matane, je pense qu'on a joué les 2. Et là, à Matane, j'ai rencontré un militant d'Opération Dignité qui travaillait dans le coin pour le développement des ressources, etc., dont je suis tombée amoureuse. Et en fait, je pense aussi que je suis tombée amoureuse de la région. C'est bon, la tournée, c'est toute une belle histoire. On est allé sur la Côte-Nord aussi, etc. Carole, elle me rappelait encore là, quand on a joué à, je pense, à Amqui ou à Kosapskal.
de Théâtre des Cuisines, moi, je dirais, c'est... c'est un souvenir quand on a joué à Kosapskal. On a joué, il me semble, dans le sous-sol de l'église de Kosapskal. Puis il y avait à peu près tout le village là, dans le sous-sol. C'était quelque chose, tu sais, d'aller jouer ça. D'abord, c'était quelque chose déjà quand on arrivait, 5 filles en minibus, tu sais, pas de gars, on faisait tout nous-mêmes, on montait nos décors, on transportait nos affaires, on conduisait le minibus. En 1975, juste ça déjà, c'était un statement là, dans un village. Puis, on a joué, donc, Maman travaille pas. Puis après, il y a une discussion, comme toujours. Puis je me rappelle qu'il y avait... Puis c'était une discussion qui avait beaucoup remué les gens. Tu sais, cette question de ce que vous faites, c'est un vrai travail. Et puis, il y a une femme qui était une agricultrice qui s'est élevée, qui avait dit, « Mais je comprends ce que vous dites, parce que moi, je suis agricultrice. » Et puis, donc, tu sais, je reçois aucune rémunération, mais je travaille avec mon mari tout le temps. Puis un jour, j'ai demandé à mon mari, est-ce que je pourrais garder le produit du petit veau? Tu sais, que moi, je vais m'en occuper du petit veau, puis quand on va le vendre ou quand on va vendre la viande, ou je sais pas, ça va me rester à moi, l'argent. Puis mon mari avait dit non. Puis il était là dans la salle, son mari. En tout cas, puis ça, je me rappelle de ça, comment c'était émouvant.
Et ça arrivait souvent, des témoignages comme ça. Et il y avait des discussions, des fois, même des couples qui se disputaient pendant Oui, je me rappelle de ça. Oui, des fois, une femme qui se levait pour ça, puis le mari qui se levait, qui disait non, moi, je suis pas d'accord. Mais ça touchait les gens vraiment dans leur vie de tous les jours. Et on sentait qu'il y avait beaucoup de femmes qui appréciaient de se faire dire que ce qu'elles faisaient était important, que ça avait une valeur économique et que la société ne pourrait pas fonctionner sans ça. Donc, c'est un beau souvenir. Cause abscale, 1975.
Au Québec, dans les années 60, il y a une montée du nationalisme. Et puis, dans les années 70, encore plus, là, on commence à trouver que les Québécois, il est temps qu'on s'affirme. Hein? De cette mouvance-là est arrivée aussi une génération qui voulait plus que juste du nationalisme, qui s'est même mise à avoir peur du nationalisme parce qu'il y a des nationalismes qui ont fait beaucoup de dégâts dans l'histoire. Et parallèlement à ça, il y a eu des révolutions en Chine, il y a eu des révolutions en Russie, où là, on souhaitait une justice pour tous et une meilleure répartition des richesses et une égalité pour tout le monde. C'est ça, le marxisme. Et c'est comme ça que sont nés ici les mouvements marxistes-léninistes. C'est-à-dire, moi, je pense que plusieurs sont d'abord passés par le nationalisme, donc politisés, mais politisés... dans la révolution, même si on a eu une révolution, comment on l'appelle notre révolution donc? Douce, non pas douce, tranquille. On a eu une révolution tranquille, que c'est drôle. Même si c'était une révolution tranquille, c'était une révolution pareille. Alors ils ont fait le saut après vers le marxisme. Et ça, c'est tout un univers et c'est tout un monde.
Les marxistes-léninistes, ou les ML, s'inscrivent dans une période méconnue et presque taboue de l'histoire québécoise récente. Au début des années 70, l'Espagne, le Portugal et la Grèce étouffent sous les dictatures. Salvador Allende, élu démocratiquement, est renversé par une junte militaire au Chili. De nombreux progressistes en viennent à la conclusion que la démocratie représentative est un leurre. Jamais la gauche ne pourra prendre le pouvoir ni le garder. La Chine communiste semble prometteuse et le désir de mettre fin à l'exploitation des ouvriers flotte dans l'air du temps. Au Québec, entre 7000 et 9000 personnes voient dans le marxisme-léninisme une solution aux inégalités. Emballant au début, il devient vite évident que ce courant révolutionnaire est un embrigadement moral et idéologique et que l'investissement demandé en temps et en argent est démesuré. L'existence des ML provoque une telle scission dans la gauche que Lorraine Guy, militante pour les droits sociaux, dira à son sujet « Si on avait eu des armes à l'époque, je suis pas sûre qu'on se serait pas tiré dessus ». Le mouvement s'essouffle après le référendum de mai 80. On en reparle très peu, comme s'il n'avait jamais existé.
Évidemment, ils n'ont pas réussi, puis il y a eu après la chute du mur de Berlin, l'échec de la révolution russe, Mao contesté mur à mur, Castro à Cuba. Eux autres aussi, là, y en a quelques utopistes là, qui ont dû avoir des bonnes années de dépression, c'est sûr et certain. Garanti. Quand on en avait dans notre vie, ce qui était mon cas, quand on en avait proche là, dans notre vie, en continuant d'être féministe, c'était l'enfer. Parce que l'amoureux, lui, il veut te convaincre. Il veut te convaincre d'arrêter d'être féministe pour intégrer son groupe marxiste-léniniste, pour aller faire la vraie révolution. Et après, on allait s'occuper des femmes. C'était promis juré après. Et il envoyait de ses camarades aussi qui débarquaient à la maison pour faire de la propagande et pour faire la morale. Ça allait aussi loin que ça. C'était extrêmement difficile. Dans cette aventure-là, moi, j'ai perdu des amitiés et un amour important.
Moi, j'ai jamais voulu entrer dans les groupes marxistes-léninistes et tout ça, mais disons, en gros, j'adhérais à cette analyse de la société, puis j'adhérais à l'idée que la lutte des femmes, elle devait s'insérer là-dedans. C'est-à-dire que oui, toutes les femmes sont exploitées, mais les femmes des classes sociales supérieures ne sont pas exploitées de la même façon que les femmes des classes sociales inférieures. On cherchait un peu le point de rencontre de ces deux luttes-là, et ça voulait dire ça pour nous, être féministes et marxistes. Tu sais, les marxistes-léninistes, il y avait une analyse très rigide de l'histoire. Il faut d'abord résoudre la contradiction principale. La contradiction principale, c'est celle entre la classe ouvrière et la classe dominante. Et après, les autres injustices, par exemple les femmes ou par exemple les minorités, les noirs, etc., c'est des contradictions secondaires et ça se résoudra une fois qu'on aura résolu la contradiction principale en faisant la révolution. Mais nous, ce qu'on disait, c'est non, non, non. On va pas attendre que la société soit soi-disant transformée et changée pour changer la condition des femmes. Et c'est là qu'on s'entendait pas. Nous, on disait, il faut faire la lutte des femmes maintenant, il faut la faire partout, il faut même la faire dans les groupes militants. Et on était dénoncés par les marxistes-léninistes. On était dénoncés ouvertement dans les assemblées marxistes-léninistes. On était des féministes qui prétendaient être marxistes ou socialistes, mais on déviait de la ligne, si tu veux.
C'était une période de scission. C'était qui c'est qui avait raison, puis les autres avaient tort. Donc, ils étaient dans le péché. J'aime mieux en rire qu'en pleurer, parce qu'on en pleurait à l'époque. C'est quand on se faisait dire par des camarades marxistes qu'on était des traîtres à la classe ouvrière, que c'est allé jusqu'à se faire dire qu'on voulait empêcher les femmes de la classe ouvrière de faire des enfants. Faut le faire. Faut le faire. Donc là, moi, j'ai réalisé que j'en pouvais plus. Et que je voulais aller vers mon chum. Là, je voulais aller vivre là où mon chum vivait. Donc, j'ai dit aux filles, ben, je vais quitter le théâtre des cuisines. T'sais, j'adorais tout ce qu'on avait fait, mais le militantisme, c'était depuis 69, non-stop. Des dizaines d'heures par semaine. T'sais, c'était un peu... c'était pas un burn-out, mais quelque part, oui. Mais c'était un burn-out plus des conflits. C'est pas que j'aimais pas ce qu'on faisait, mais les conflits, c'était vraiment dur. Donc, on a joué encore à l'automne, et puis ben moi, je me prépare à partir, puis je suis partie fin 75.
Et donc là, le Théâtre des cuisines, on s'est retrouvés assez déséquilibrés parce qu'il y avait une des leaders qui partait, qui était celle qui nous avait réunis. Et puis, là, on a remplacé les trois qui sont partis par trois autres femmes. On a continué à jouer « Maman travaille pas » avec ces nouvelles venues qui étaient toutes les trois des femmes sans expérience de théâtre. Mais des femmes plus âgées que nous. Il y en a deux qui avaient des enfants, même adolescents. Et donc, on n'avait plus cette cohésion qu'on avait eue de cinq filles entre 25 et 28 ans qui ont à peu près tout le même style de vie. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, en fait, on est bloqué. Quand je pense aujourd'hui, ça me fait drôle de... Mais c'était très sincère, notre démarche. On s'est dit, on est bloqué théoriquement et on a besoin de s'éduquer ou de réfléchir à notre position théorique avant d'écrire une autre pièce. Donc là, on a dit, on met sur pause le théâtre des cuisines et puis on va former un groupe d'études où on va lire des textes. Mais c'était aussi ça, c'était une époque où les marxistes, léninistes étaient très omniprésents dans la gauche au Québec. Puis eux autres, ils fonctionnaient comme ça, ils faisaient des groupes d'études et tout. Et donc, comme on se disait féministe et marxiste, on a fait un groupe d'études où on lisait des textes féministes, mais aussi des textes marxistes, les textes de base là, du marxisme, etc., pour essayer de voir qu'est-ce qu'on veut dire, dans le fond, quand on dit qu'on est féministe et marxiste. On voulait un peu se solidifier théoriquement. On faisait des réunions de temps en temps, mais ça a été assez démobilisant parce que, bien sûr, on s'était fixé des objectifs assez vastes et qu'on n'arrivait pas du tout à déterminer qu'est-ce que c'était notre théorie. Puis on n'était pas des théoriciennes, mais c'était pas ça notre métier, c'était pas ça nos compétences. C'est là que moi, je me suis rendu compte que, mais moi, je veux pas, tu sais, moi, je veux faire du théâtre. Et puis moi, dans le théâtre des cuisines, j'étais celle qui était le plus attachée au théâtre. Par exemple, on a eu des débats avec Maman travaille pas, trop d'ouvrages, parce que on était invité à jouer au Festival de la QJT, qui était un festival de théâtre, qui regroupait beaucoup de troupes qui faisaient du théâtre engagé, mais pas seulement. Il y en a qui faisaient d'autres sortes de théâtre. Et puis, moi, je voulais beaucoup qu'on y aille. Je disais, mais il faut garder un lien avec les autres qui font du théâtre comme nous. Mais il y en a dans le groupe qui trouvaient ça pas pertinent du tout. Qu'est-ce qu'on va aller faire là? C'est un festival de théâtre. Nous, on est des militants. Nos vrais interlocuteurs, c'est pas les autres qui font du théâtre. Nos interlocuteurs, c'est les groupes populaires, les groupes de femmes, les syndicats, etc. C'était très cadré, notre affaire. Donc, on a fait ça, puis parallèlement à ça, il y en a certaines d'entre nous, dont moi, qui sont allées travailler au Centre de santé des femmes.
Et on était toujours préoccupés par le fameux mouvement de libération des femmes. Et là, on se disait, ben là, on va mettre le théâtre des cuisines en veilleuse. On va aller travailler dans un centre, dans un quartier. On va s'impliquer à la base. Et là, on va réussir à le créer, notre fameux mouvement. Puis après ça, on reviendra au théâtre pour être les porte-parole. On est allé travailler au centre de santé des femmes du quartier. Celle qui restait là. Et puis, on s'est épuisé. Et on a réalisé, après quelque temps, que non. Et puis, il y a une qui avait intégré l'équipe, est morte d'un cancer. Il y en a une qui a passé au feu. C'est l'époque où je me suis séparée. Donc, on est un peu rentré chez nous, là, la mine basse. On n'avait pas réussi ce qu'on voulait. Et c'est comme ça que la pièce a été mise en veilleuse. C'est comme ça.
C'était le deuxième épisode de « Nous sortirons de nos cuisines », un documentaire en quatre actes avec Solange Collin, Carole Fréchette et Véronique O'Leary. Interprète, extrait de « Maman travaille pas, à trop d'ouvrage », Marjolaine Beauchamp, Yelena Djukic, Vanessa Landry, Magali Saint-Vincent et Leslie Velasquez. Recherche, réalisation, montage et conception sonore, Jenny Cartwright. Production, David Cherniak. Texte de Jenny Cartwright, sous les conseils historiques de Camille Robert et la révision de Mélodie Drouin et Marie-Hélène Racine. Narration, Elkana Talbi. Conseillère au montage, Natacha Dufault. Mixage, Bruno Bélanger. Recherche musicale, Sébastien Desrosiers, Jenny Cartwright.
Archives, Société Radio-Canada. Musique, Debout les femmes. Paroles et musique, Solange Tremblay, avec la collaboration du Centre des femmes. Interprète, Solange Tremblay, Judith Germain. Basse, Jacques Asselin. Guitare, André Thibault. L'appel du Comintern, interprété par la Ligue communiste marxiste-léniniste du Canada. Mille merci à Solange Tremblay, Rachel Bédard et aux éditions du Remue-Ménage. Ce documentaire a bénéficié de la résidence de Salon 58, Espace culturel à Marsoui, du programme d'aide à la création de Prime et du programme d'assistance à la production d'Oboro. Il a été produit avec le précieux soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec. Il n'aurait pas pu voir le jour sans l'apport essentiel des centres d'artistes.